1h à Bamako et à Gao, 22h à N'Djamena. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Au Tchad, le procès des agents de la DDS, Wissène Abré, a repris, mais sans la présence des avocats pour cause de grève générale. Au Mali, alerte maximale suite à un cinquième cas d'Ebola.
J'ai dit aux équipes ce matin que je ne veux plus de réunions assises. Ils se mettent dehors comme moi. Depuis 6h du matin, on est là.
Enfin, au Bénin, les hôpitaux expérimentent un nouveau mécanisme censé apporter plus de ressources. Reportage de Peggy Ludovic Dagba à suivre. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir, Jean-Roger Bignon à ce micro. La Tunisie organise dimanche sa première élection présidentielle libre de la pré-révolution. Le grand favori, Béji Caïd Essebsi, 87 ans, espère réaliser un doublé après la victoire de son parti Nida Tounes aux législatives. 27 candidats sont en lice, dont le président sortant, Moncef Marzouki, d'ancien ministre, une figure de la gauche, Ama Amami, le riche homme d'affaires Slim Riayi et Katloum Kanou, magistrat et seule femme dans la cause. Le parti islamiste Ennahda n'a pas présenté de candidat. En Côte d'Ivoire, des militaires réclamant l'avancement et de meilleurs soldes ont manifesté dans plusieurs villes. La grogne a démarré à Bouaké, deuxième ville du pays, où ils ont monté des barricades et bloqué la circulation, puis s'est propagé au camp d'Akwedo, la principale caserne d'Abidjan. Les soldats en colère ont tiré en l'air à Bondoukou et à Bangourou, dans l'est du pays. Le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, leur a demandé de regagner leur poste et a promis de satisfaire certaines de leurs revendications. Michel Kafando a été investi président intérimaire du Burkina Faso ce matin avec la tâche de conduire la transition pendant un an jusqu'aux élections prévues en novembre 2015. Monsieur Kafando, un ex-diplomate, a promis de respecter la constitution et la charte de transition lors de sa prestation de serment à Ouagadougou qui a été retransmise sur les chaînes nationales de télé.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Deux Palestiniens ont tué 4 Israéliens dans une synagogue de Jérusalem. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs années dans la ville sainte en proie à des heurts quotidiens. Le point avec Idriss Fall.
L'attaque s'est produite dans une synagogue de Jérusalem. Deux cousins palestiniens armés de haches et pistolets sont entrés pendant la prière juive du matin. Ils ont fait 4 morts et 8 blessés, dont un grièvement. Les assaillants ont été abattus par les forces de l'ordre arrivées rapidement sur les lieux. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a promis de répondre avec une main de fer. Washington a dénoncé un acte d'une brutalité insensée. Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui aussi condamné, mais le Hamas et le djihad islamique ont salué l'attaque qui n'a pas été revendiquée. Dimanche soir, un chauffeur de bus palestinien a été retrouvé pendu dans son dépôt à Jérusalem. Depuis, la tension est montée d'un cran dans la ville sainte, prise dans une spirale de violence depuis juillet. Des extrémistes juifs avaient brûlé vif un jeune Palestinien après le meurtre de 3 Israéliens. Le mois dernier, un Palestinien a jeté sa voiture sur un arrêt de tramway et 2 autres attentats à la voiture Bélier ont ensanglanté Jérusalem et la Cisjordanie avec une série d'attaques au couteau jusqu'à Tel Aviv.
La Russie a lancé une sérieuse opération de mobilisation militaire tant à l'intérieur de l'Ukraine que dans la zone frontalière, a fait savoir le secrétaire général de l'OTAN. Des troupes et des équipements militaires sophistiqués sont impliqués dans l'opération, a déclaré Jens Stoltenberg. Aujourd'hui à Bruxelles, un retrait de ses forces contribuerait à une résolution pacifique du conflit en Ukraine, a-t-il dit. L'envoyé spécial de l'ONU en Irak a appelé tous les groupes qui ne sont pas affiliés à l'organisation État islamique à discuter avec Bagdad pour résoudre leurs différends et rejoindre la campagne du gouvernement contre les islamistes. Prenant la parole aujourd'hui devant le Conseil de sécurité, Nikolai Mladenov a déclaré que la stratégie du nouveau gouvernement irakien d'enrôler des Kurdes et des membres des tribus locales pour aider à lutter contre les djihadistes commence à porter des fruits. Les Irakiens ont enregistré la semaine passée leur plus grande victoire depuis le début de l'offensive de l'État islamique en reprenant le contrôle de la ville de Baïji. Seul le diplomate tunisien, au moins 10 000 civils ont été tués, 20 000 blessés en Irak. Irak cette année. Vous écoutez la VO Afrique, la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous ouvrons l'émission par le Tchad où le procès des ex-agents de la DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité, s'est ouvert vendredi dernier. Alors que près de 25 000 personnes ont été victimes de la DDS durant la dictature d'Hissène Habré, ce procès historique a repris aujourd'hui dans une certaine morosité. Les avocats des victimes comme des prévenus sont absent pour cause de grève générale. Une absence fortement regrettée par les ONG et les associations de victimes qui veulent un procès équitable. Jacqueline Moudeina est la présidente de l'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme.
Je crois que c'est beaucoup plus un sentiment de tristesse parce que j'aurais bien voulu avoir un bon procès, un procès propre, un procès juste et équitable. Mais là, la session s'ouvre avec un problème. C'est celui de l'absence des avocats à cette session criminelle. On ne peut pas tenir une session criminelle sans les avocats. Et aussi, il y a un texte tchadien, c'est l'article 48 du Code de procédure pénale tchadien, qui fait l'obligation de la présence d'un avocat à la session criminelle. Mais pour cette session criminelle, les avocats sont entrés en grève et là, ni les avocats des parties civiles, ni ceux des accusés ne sont présents à cette session criminelle. Et ça, c'est vraiment un désarroi pour nous.
Quelles sont vos inquiétudes sur ce procès ? Est-ce que vous avez principalement peur que ce ne soit pas un procès équitable ?
Oui, c'est beaucoup d'inquiétudes pour moi. Parce que depuis l'instruction jusqu'à maintenant, je crois que nous avons eu, en notre qualité de partie civile, à relever appel d'abord de l'ordonnance du juge d'instruction. Ensuite, arrivé à la chambre d'accusation, nous avons relevé beaucoup d'irrégularités également, et ce qui nous a amené à déposer plusieurs requêtes devant cette cour-là. Donc, pour nous, nous avons besoin d'un procès, c'est vrai. Mais nous n'avons pas besoin d'un procès à tous les prix. Nous avons besoin d'un procès propre, juste et équitable pour toutes les parties. C'est-à-dire aussi bien pour les parties civiles que pour les accusés. Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas parce que depuis 14 ans, nous courons, nous sommes en quête de justice depuis 14 ans, que nous acceptons d'aller à n'importe quel procès ou d'obtenir un jugement à n'importe quel prix. Non. Nous voulons un jugement juste et équitable. Et nous voulons aussi, ensemble, avec le peuple tchadien, écrire l'histoire, réécrire l'histoire du Tchad. Ça a été un drame, cette période de 82 à 90. Et les autorités judiciaires, l'État tchadien, n'ont pas à prendre les choses à la légère. Nous avons besoin du sérieux dans tout ce que nous faisons.
Quelle est la réaction des familles, des victimes ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques témoignages ?
Évidemment, les victimes sont toutes tristes parce qu'elles auraient voulu être accompagnées par leurs avocats qui ont toujours été à leur côté pour cette quête de justice depuis 14 ans aujourd'hui. Les plaintes ont été déposées exactement le 26 octobre 2000 et nous sommes à 14 ans de ce dépôt de plainte. Et c'est seulement aujourd'hui que le gouvernement tchadien réagit et les victimes auraient voulu voir à leur côté tous ceux qui les ont accompagnés depuis 2000. Donc c'est la tristesse également dans leur rang. Mais nous espérons que la situation va se décanter pour que les avocats puissent reprendre et que les victimes soient accompagnées devant cette juridiction.
Jacqueline Moudeina, présidente de l'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Jacqueline Moudeina que nous avons joint à N'Djamena. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 93.1 FM à N'Djamena. Mali est en état d'alerte maximum suite à la confirmation d'un cinquième cas d'Ebola dans ce pays. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu à Kouré-Malé, à la frontière guinéenne, pour parler des mesures de lutte contre la maladie. Il a également visité un centre de traitement tenu par l'ONG Médecins sans frontières à Bamako. Voici le reportage de Katharina Hodge, restitué par Michel Joseph.
C'est de la Guinée voisine que l'alerte a été donnée après le décès de 3 patients admis à la clinique Pasteur de la capitale malienne et présentant des symptômes de l'Ebola que ne soupçonnait pas le personnel de la clinique. L'un d'entre eux était un imam venu de Guinée. Des efforts ont alors été déployés pour retracer les contacts qu'auraient eus les défunts ou le personnel médical les ayant traités. Le docteur Sambasso dirige l'équipe malienne de réaction rapide à l'Ebola.
La bonne nouvelle est que le nombre de contacts augmente tous les jours. Le premier jour, c'était moins de 100, c'était 80 et quelques. Le deuxième jour, c'était 180. Le troisième jour, c'était 442. Le quatrième jour, c'était 582. Et je m'attends à 1000 contacts. J'ai dit aux équipes ce matin que je ne veux plus de réunions assises. Ils se mettent dehors comme moi. Depuis 6h du matin, on est là. Ils se mettent dehors, ils s'arrêtent, ils se communiquent et ils font sur le terrain.
Cette augmentation rapide du nombre de contacts est une bonne nouvelle, estime le docteur Sou.
Vous savez, en matière de gestion d'une épidémie comme Ebola, il y a deux choses. La première chose, c'est de détecter des cas suspects et trouver la confirmation de ces cas. Ça veut dire que le système d'alerte doit marcher. La deuxième chose, pour dire qu'on ne dort pas, mais on est actif ou même proactif, ça c'est la recherche des contacts. Parce que le seul moyen efficace aujourd'hui pour juguler, contrôler mieux cette infection, c'est un suivi fort des contacts. Identifier tous les contacts potentiels, les suivre au maximum possible.
Les efforts sont en cours pour intensifier la réponse du Mali à ce foyer d'Ebola. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a visité hier le centre de traitement de Médecins sans frontières de Bamako qui reçoit les malades déclarés et présumés.
Cela renforce mon optimisme et ma conviction que l'Ebola sera vaincu au Mali, Inch'Allah. Pour ce qui nous concerne, nous ferons tout pour que tous les moyens soient mis à la disposition de cette équipe, qu'elle réussisse la mission.
Parmi les patients admis dans ce centre, le médecin de la clinique Pasteur, un infirmier qui y était soigné, est décédé. Une centaine d'agents de santé et de volontaires tentent de retrouver des personnes ayant eu un contact avec lui. Les Maliens s'interrogent sur la réponse de leur pays à cette crise sanitaire. Le président Keïta les a exhortés à prendre la situation au sérieux.
C'est vrai, l'Ebola existe et l'Ebola tue. L'Ebola se transmet par la sueur, l'Ebola se transmet par le sang, l'Ebola se transmet par les sécrétions, toutes les sécrétions. Il faut que les gens sachent garder raison. Cette maladie n'est pas portée par le vent, c'est une maladie de contact. On l'a expliqué en long et en large, en langue nationale. Le docteur Sambasso, son équipe, le ministre de la Santé, Ousmane Kone, tous ont expliqué comment se transmettait ce virus à Ebola. Donc, il faut comprendre les précautions indiquées. Le lavage des mains. Je ne sais pas combien de fois j'ai lavé mes mains, bien qu'elles soient dans les gants. Se protéger, se prémunir.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali, qui avait été épargné par l'épidémie d'Ebola, qui sévit en Guinée voisine, a enregistré 5 cas et 4 décès. Des centaines de personnes ont été placées en quarantaine, y compris une vingtaine de casques bleus traités dans l'hôpital de Bamako où travaillait l'infirmier décédé.
Après le Rwanda et le Burundi, c'est au tour des hôpitaux du Bénin d'expérimenter le financement basé sur le résultat, un mécanisme censé apporter plus de ressources aux établissements et plus de motivation pour le personnel soignant. Une vingtaine d'agents venant de plusieurs zones sanitaires du pays viennent de bénéficier de plus d'un mois et demi de formation. De Cotonou, Peggy Ludovic Dagba nous en dit plus.
Le financement des centres de santé relève d'un casse-tête pour les pouvoirs publics en Afrique en général et au Bénin spécifiquement, tant les fonds engloutis ne donnent aucun retour sur investissement. Ceci donne lieu à des réflexions qui aboutissent à des mécanismes porteurs, dont par exemple le financement basé sur les résultats. Docteur Sylvestre Ablé, médecin conseil à AMSES, structure fêtière des hôpitaux confessionnels au Bénin, initiatrice d'une formation axée sur ce mécanisme.
Désormais, les ressources seront allouées grâce aux performances donc, des agents de santé. Les ressources seront liées aux performances. Donc. Le financement donc, basé sur les résultats est un véritable facteur de motivation
des agents de santé. Il faut donner une reconnaissance au mérite. Celui qui est plus méritant, celui qui est plus performant, il doit avoir une rétribution plus que celui qui n'en a pas. De la même façon, la formation sanitaire qui est plus performante va recevoir plus de ressources financières.
La formation a duré 45 jours et aura réuni plus d'une vingtaine de participants venus de toutes les zones sanitaires du Bénin pour leur enseigner les fondamentaux du financement basés sur les résultats et les moyens par lesquels atteindre ces objectifs. Alexandre Alavokpaou, gestionnaire d'hôpitaux, et Bernard Aniwanou, infirmier épidémiologiste, ont suivi avec grand intérêt les enseignements dispensés.
Essentiellement, moi j'ai retenu que le système de santé c'est un système dynamique et qu'il faut renforcer par des mécanismes de gestion basés sur le calcul des coûts pour pouvoir mieux financer. Il faut financer sur la base du concret en calculant les coûts. Les outputs et les inputs, il faut calculer tout avant de financer.
Désormais, dans nos zones sanitaires, lorsqu'on présente un budget, nous sommes en mesure de l'analyser, de mener des analyses un peu plus pointueuses par rapport au budget qu'on présente, alors que nous n'avons pas fait la comptabilité. Donc, lorsqu'on vous présente des documents financiers, administratifs, quand vous n'avez pas de compétences par rapport à ce domaine, vous lisez seulement, vous ne comprenez pas grand-chose. Ce volet de formation va nous permettre de mieux analyser ces documents, va nous permettre d'appuyer nos collègues dans les zones sanitaires à élaborer correctement leur budget par rapport à ce qui se faisait.
Le financement basé sur les résultats est déjà en expérimentation dans 8 zones sanitaires au Bénin. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Claire Morin-Gibourg. À la technique, Wojtek Journiak. Nous nous quittons en musique avec Baba Mal et son Tindo Kando. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Stay.